Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et puis nous aurons tout le temps de louer le Seigneur, de le prier, d'intercéder aussi après. Vous pouvez ouvrir avec moi, s'il vous plaît, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Nous avons, dans les mois passés, longuement parlé de la prière. Bien sûr, on n'a jamais tout dit, mais le but n'est pas d'être exhaustif. On pourra toujours y revenir plus tard, mais puisque nous sommes entrés les dimanches dans une nouvelle série de méditations concernant l'Église, une Église selon le cœur de Dieu, j'ai à cœur aussi d'approfondir cette thématique sur les mardis parce qu'il y a tellement de choses, je ne pourrais pas tout dire sur les dimanches. Et j'ai à cœur d'aborder avec vous dans les mardis qui viennent les lettres que l'apôtre Jean a écrites sur l'île de Patmos. Les sept lettres qu'il a écrites aux églises d'Asie qui sont les églises de tous les temps, les églises aussi de la fin des temps, puisqu'on s'apercevra très rapidement en étudiant ces messages, ces églises, que le message adressé à ces églises a toujours été d'actualité et n'a jamais été, je dirais ainsi, n'a jamais été autant d'actualité que maintenant. Les chapitres 2 et 3 présentent sept églises, sept lettres, une lettre à chaque église. Ces lettres, en vérité, comme je vous l'ai dit, concernent toutes les églises de tous les temps, mais spécifiquement, plus la nuit avance, plus on s'aperçoit qu'elles sont d'actualité. Ces sept types d'églises sont présentes à la surface de la terre aujourd'hui, et ce sera de plus en plus évident quand on va avancer vers la fin des temps. Chaque lettre délivre un message spécifique. Un message pour chaque église. Chaque église a son historique, elle a ses points forts, elle a ses points faibles, elle a ses combats. Chaque église a connu des combats, des épreuves, des succès, des échecs. Elle vit aussi des dangers de l'intérieur et c'est souvent de ça dont il est question, on le verra. Et puis, chaque église a nécessairement un ou plusieurs points, mais très souvent un point fondamental sur lequel elle doit veiller et parfois non seulement veiller, mais même réellement changer. Puisque sur les sept églises, cinq sur les sept entendent de la part de Jésus un appel solennel à la repentance. Et là, le Seigneur n'appelle pas des inconvertis à la repentance, il appelle des églises à la repentance. Ces lettres, pourquoi ? Parce que ces lettres constituent en vérité, quand on va les considérer dans leur ensemble, sept lettres constituent sept enjeux fondamentaux, sept enjeux majeurs de la vie chrétienne, autant pour moi que pour vous, à titre individuel et collectif. Je dirais aussi comme ça, sept grandes batailles. Il existe sept grandes batailles dans la vie chrétienne et dans la vie des églises que nous devons absolument remporter, autant sur le plan individuel que collectif. Vous notez bien, dans chaque lettre que nous allons lire, que toutes les lettres se terminent par « que chacun écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Que chacun. Et chaque lettre se termine avec une promesse à celui qui vaincra. Pas à ceux, à celui qui vaincra. Que chacun écoute. Ce qui constitue autant une responsabilité individuelle que collective. Et puis, ce qui m'a aussi frappé à la méditation du livre de l'Apocalypse, vous savez, bien aimé, les vraies batailles, les véritables enjeux ne se situent pas à l'extérieur de l'Église, mais se situent à l'intérieur de l'Église. Au sujet d'Armageddon, et du retour de Jésus, le Seigneur dit, ça va se passer comme ça et comme ça, point à la ligne. Sujet suivant, le millénium, ça se passe comme ça et comme ça. Le diable est relâché, ensuite vient l'ultime rébellion, Gog et Magog, l'ultime rébellion, ça va se passer comme ça et comme ça. Voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se finir. Ensuite vient le grand jugement dernier, le grand trône blanc. Ensuite vient les nouvelles cieux, les nouvelles terres, etc. Et à chaque bataille, dans les grands moments de ce monde, des choses qui nous paraissent terribles, le Seigneur dit, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se finir, point à la ligne. Par contre, pour les sept grandes batailles, pour les sept messages qu'il adresse aux sept types d'églises de toute la terre dans la fin des temps, le Seigneur ne peut pas dire « voilà comment ça va se terminer ». Parce que ça dépend de moi. Parce que ça dépend de toi. Parce que chacun pour sa part va devoir, chacun va déterminer comment ça va se finir. Et en réalité, on arrive ici au chapitre 2, verset 1er, et on lit la première bataille décisive dans laquelle l'Église est engagée, et qui plus est dans la fin des temps. L'enjeu majeur, c'est l'enjeu pour le premier amour. Fred nous l'a dit, nous avons avec le Seigneur une relation d'amour, et on lit ensemble Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, on n'a jamais vu un ange à la tête d'une église, ici il faut comprendre ange au sens de messager, au sens de responsable d'église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et je sais que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es même pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, pas perdu. Vous pouvez perdre vos clés, vous pouvez perdre vos papiers d'identité. L'amour, on ne le perd pas. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres, du verbe haïr, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je déteste aussi. Que celui, pas ceux, pas celle, pas l'Église, que celui qui a des oreilles pour entendre, pour écouter ce que l'Esprit dit aux Églises, écoute. À celui, pas à ceux, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Les contextes, vous le savez, bien aimés, sont toujours extrêmement intéressants pour comprendre la portée de ce qui est dit dans les textes. Les contextes sont toujours fondamentaux. Éphèse, c'est une ville et une église, donc, qui avait environ, puisque Jean écrit à peu près en l'an 95-96, qui environ 40 ans plus tôt avait connu un réveil, un souffle, une action de l'esprit extraordinaire. Cette église, si vous lisez Acte 19, cette église est née sous le ministère de l'apôtre Paul. Lorsque Paul arrive à Éphèse, il rencontre quelques disciples. Ces disciples disent « Nous n'avons été baptisés que du baptême de Jean-Baptiste, ils ne sont pas baptisés, ils n'ont même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Donc l'apôtre Paul va les enseigner, ils vont être baptisés, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Que dis-je ? Ils vont vivre une effusion du Saint-Esprit extraordinaire. Paul va y rester pendant un peu plus de 2 ans. Les disciples sont affermis, la parole se répand avec puissance. Et il se fait des miracles dans la ville extraordinaires. Au point, si vous lisez Acte 19, qu'il est dit qu'on prenait même, on n'avait même plus le temps de prier pour les malades. On prenait les linges, excuse-moi Paul, donne-moi ton mouchoir. On prenait les linges et les mouchoirs qui avaient touché l'apôtre Paul, on les plaçait sur les malades et ils étaient guéris. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point que un impact de l'évangile, un impact incroyable dans la ville. Le commerce des statues, des idoles s'effondre. Parce qu'il faut savoir que, ça aussi c'est intéressant, Éphèse était dans cette partie d'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle, Éphèse était un haut lieu d'idolâtrie. Et c'était en réalité une place forte pour les ténèbres. Il y avait le temple, au cœur de la ville, il y avait le temple qui était l'une des sept merveilles du monde antique. C'était le centre du culte d'Artémis pour les Grecs, le culte de la Diane pour les Romains. Il y avait toutes sortes de fausses divinités qui accompagnaient Artémis et Diane. Et puis il y avait nécessairement un culte des idoles et un commerce des statues et des idoles. Et puis le commerce des statues, il y a un tel impact de l'évangile que le commerce des idoles s'effondrent, les ténèbres perdent du recul, de leur puissance, les ténèbres reculent, et il se passe des choses extraordinaires. Et l'Église, elle naît, et elle est enseignée par l'apôtre Paul, et pendant 2 ans, c'est comme ça. Vivre des choses aussi extraordinaires, pour s'entendre dire, de la part de Jésus, 40 ans après, 40 ans, c'est pas beaucoup, hein? 40 ans après, si tu ne te repens pas, je vais enlever le chandelier de sa place. Ça veut dire que tu ne seras plus, puisque le chandelier apporte la lumière, merci, brille, tu ne seras plus l'Église au sens où je l'entends. Tu seras toujours une association cultuelle, tu auras toujours un pasteur, tu auras toujours un CA, tu auras toujours des diacres, des anciens, tu auras toujours des agapes, tu auras toujours une qualification culturelle, tu auras toujours. Mais tu ne seras pas l'Église au sens où moi, je le conçois. J'enlèverai le chandelier de sa place. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Comment est-ce que Jésus peut dire quelque chose comme ça à une Église comme Éphèse? Parce que Éphèse est en train de perdre sur les 7 batailles. Et Éphèse est en train de perdre, elle a même déjà perdu d'une certaine façon, puisque le Seigneur lui demande de se repentir. Elle a déjà perdu la première bataille fondamentale de toute vie chrétienne, c'est la bataille pour l'amour de Christ. Et le Seigneur leur dit, il est obligé de leur dire. Preuve que peut-être ils n'en ont même pas conscience finalement. Puisque Jésus est obligé de leur dire, tu as abandonné ton premier amour. Comment est-ce que c'est arrivé? Doucement, lentement, mais sûrement, elle a abandonné l'essentiel. Et puis ce qui m'interpelle, à la lumière du texte qu'on a lu ensemble, c'est qu'en apparence, quand vous regardez cette église, mais excusez-moi, mais c'est une super église. Hein. Tous les pasteurs, ils veulent une église comme Éphèse. Tous les pasteurs, ils veulent une église qui a démarré sous le ministère de Paul. En plus, ils ont quand même Éphèse, les Éphésiens. En plus d'avoir eu Paul comme pasteur, d'avoir eu un démarrage extraordinaire, ils ont quand même reçu l'épître de Paul quelques années plus tard aux Éphésiens, et Paul leur dépeint, leur décrit des choses toutes plus belles les unes que les autres, notamment tout le chapitre 1er, les bénédictions du Dieu Trinitaire, bénédiction du Père, bénédiction du Fils, bénédiction de l'Esprit. Et puis cette église, elle a vécu, elle a compris, elle a eu des choses extraordinaires. Et quand on regarde cette église, mais elle a des qualités certaines et Jésus les souligne. La première chose, c'est que cette église, elle a une bonne doctrine. Pour ne pas dire même une excellente doctrine. Elle a quand même eu Paul comme pasteur. Pour poser le fondement, je crois qu'il n'y a pas mieux pour la doctrine, on est d'accord. Ils ont eu Paul comme pasteur. Donc la doctrine, elle est impeccable. Il y a une bonne connaissance de la vérité. Une telle connaissance de la vérité qu'ils ont suffisamment de discernement par l'esprit qui les remplit et par la parole pour éprouver les faux apôtres. Ils ne se sont pas laissés berner, ils ne se sont pas laissés corrompre, comme Pergame, comme Sardes ou Thyatire ou d'autres. Ils ont du discernement. Tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres, qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Donc cette église, elle est enracinée dans la vérité. Elle a une doctrine impeccable. Elle a du discernement. Et puis cette église, elle a une intégrité morale. Ce n'est pas Corinthe. Il n'y en a pas deux, trois qui sont arrivés au moment de la scène et qui ont un coup dans le nez. Il n'y en a pas un qui a la femme de son père. Ils ne se font pas des procès les uns aux autres. Ils n'ont pas d'esprit de parti. Ils ne sont pas en train de se chicaner. Ce n'est pas les Corinthiens. Éphèse a une intégrité morale. C'est Jésus qui leur dit. Tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Nicolaïtes, ça signifie destruction des peuples. Les Nicolaïtes, c'est très simple, c'était... un groupement de gens qui formaient une espèce de, presque une secte, c'était des gens qui se livraient à l'immoralité, à l'impudicité, et qui incitaient même les enfants de Dieu, en s'infiltrant dans les églises, ils incitaient à l'immoralité parce qu'ils faisaient de la grâce un prétexte pour pécher, et puis voilà, vivre toutes sortes de dérèglements. Mais Éphèse avait du discernement spirituel sur les faux docteurs, et Éphèse n'a pas toléré l'immoralité dans son sein. C'est pas une super église, ça ? Franchement. Et puis, Éphèse a de la persévérance. Je connais ta persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Alors, il y a eu quoi ? On ne sait pas. Mais il y a forcément eu des épreuves, des injustices, des combats, des luttes, de l'adversité en général qui n'en a pas. Et à cause de Jésus, tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Donc tu avais toutes les raisons de laisser tomber. Pourtant, tu as persévéré, tu es resté et tu n'es pas retourné en arrière. Et puis, cinquièmement, c'est une église qui est à l'œuvre. Cette église, elle bosse. Je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement comme œuvre, mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Donc cette œuvre, cette église, pardon, elle est courageuse, elle est active, elle sert son Seigneur. Et dans ce domaine, pas seulement dans le domaine de l'adversité, où elle a fait preuve de persévérance, mais aussi dans le domaine des œuvres, du travail, elle a su être persévérante aussi. Et le Seigneur le souligne et il lui dit, mais ce que tu fais, ben, tu le fais très bien. Et le Seigneur ne dit rien là-dessus. Sur ces points, je ne sais pas ce que vous en dites, mais d'avoir une super doctrine, d'avoir du discernement spirituel, de l'intégrité morale, de la persévérance dans l'épreuve et d'avoir des œuvres, du travail, de la persévérance dans le service de Dieu, sur ces cinq points, je m'excuse, Éphèse est une église irréprochable. Et Jésus ne dit pas que ce n'est pas bien. D'ailleurs, c'est lui qui parle. Jean écrit, mais c'est Jésus qui se révèle. Et c'est Jésus qui parle. Et en réalité, Jésus prend le temps de souligner ce qui est bien, parce que le Seigneur n'est pas là pour nous accabler, il nous dit la vérité est dite dans l'amour, l'amour dit la vérité est dite dans l'amour, dans un but salutaire, mais en réalité, le Seigneur prend le temps de souligner ces choses, parce qu'il en est conscient, quand on fait un bilan, on ne met pas seulement l'accent sur un négatif, mais on regarde l'ensemble, on dit, mais tout ça, c'est bien. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important, que tu as abandonné. Ça me fait sérieusement réfléchir. Il te manque l'essentiel. Il te manque l'amour. Tout ce que tu le fais super bien. Mais il te manque l'amour. Parce que l'amour, c'est le seul fondement possible. C'est le moteur de notre vie spirituelle, c'est le moteur de notre vie avec Dieu, sans cœur, sans élan, sans passion. Tout ce qu'on fait, c'est fade, c'est sans saveur. Reste des traditions, des habitudes, des règles, la routine, on fait les choses, on est comme en pilote automatique. On fait les choses parce qu'on a l'habitude de les faire. Puis au bout d'un moment, à force de faire les choses de façon mécanique, un jour on ne sait même plus pourquoi on fait les choses, ni pourquoi, ni pour quoi. C'est comme si vous avez une super voiture, vous avez une super Audi A8, une super Porsche Cayenne, ce que vous voulez, une super voiture. Elle est belle, elle est lustrée, elle est nickel, elle est impeccable. Il y a tout, les pneus, les sièges, la sellerie cuir, tout, il y a tout, c'est parfait, elle est nickel. Et quand vous ouvrez le capot, il n'y a pas de moteur. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire, si je me permets une parabole moderne, des temps modernes. Il n'y a pas de moteur. Donc, en réalité, Éphèse a continué à faire en extérieur, parce que Éphèse était une église impeccable sur le faire, mais en réalité, sur l'intérieur, visiblement, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle déclinait, elle n'a rien perdu, c'est qu'elle a fini par abandonner l'être au détriment du faire. Elle faisait au détriment de l'être. Et Jésus, lui qui est l'époux légitime, se retrouve lésé dans l'amour qui lui est dû. Alors il parle, pas pour la casser, parce que s'il lui demande de revenir, ben c'est parce qu'il ne l'a pas rejetée, c'est parce qu'il l'aime, c'est parce que c'est possible, c'est parce que ce sera salutaire, c'est parce que cette église a des choses encore magnifiques à vivre avec son Seigneur, mais Jésus, pour l'instant, est lésé dans l'amour qui lui est dû. C'est pour ça qu'il se présente, vous ferez attention, je le soulignerai autant que possible, chaque fois que le Seigneur inspire Jean pour envoyer une lettre à une église, le Seigneur se présente de façon différente. Il met toujours en évidence une facette de sa personne qui, comme par hasard, est la facette qui manque à l'église à ce moment-là. Et là, il se présente justement comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Les 7 étoiles, les 7 églises, les 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Étoile parce qu'une étoile brille, parce qu'elle sert à s'orienter, parce que l'église est un phare dans la nuit de ce monde. Au milieu des chandeliers parce qu'elle éclaire, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Parce que Jésus est l'origine de l'Église, parce qu'il est le légitime propriétaire de l'Église, parce qu'il est le légitime époux de l'Église, celui qui marche au milieu des chandeliers, parce que l'Église a réellement besoin de remettre Jésus sur le trône de son cœur, de le remettre au centre, sur le trône de son cœur. Éphèse, malheureusement, était arrivée à un point où elle n'aimait plus Jésus comme elle le devait. Elle se réfugiait derrière sa doctrine. « J'ai rien à dire sur ta doctrine, » dit Jésus. Elle se réfugiait derrière sa morale, son intégrité morale, derrière ses blessures, son passé, ses combats, sa fidélité, derrière ses œuvres, etc. Mais vous savez, bien aimé, même si Éphèse avait un passé glorieux, même si elle avait des qualités authentiques, Jésus, il sait, celui qui sonde les cœurs et les reins, il sait. Et ce qui le préoccupe par-dessus toute autre chose, ce n'est pas ce que je fais pour lui, mais c'est de savoir si je l'aime. Comment je l'aime? À quel degré je l'aime? Vous savez, prends l'exemple du couple. Les conjoints, un homme et une femme, savent très bien le degré d'amour de leur conjoint. Même nous, humains, on le sait, on le ressent. Ah, mes chéris, mais même quand t'es là, t'es pas là. T'es là, mais t'es pas avec moi. Non, mais chérie, attends, mais j'ai emmené les enfants, etc. Oui, merci, tu emmènes les enfants au sport, tu l'as bien fait, merci. Oui, mais j'ai fait le ménage. Oui, ah ben, le ménage, tu le fais super bien, merci. Ouais, tu fais tourner la maison. Ah oui, et puis t'as bien fait les courses. Et puis t'as vidé le lave-vaisselle. Et puis franchement, là, ce que tu fais, c'est vraiment ce que tu fais, homme, femme, l'un ou l'autre, on peut se le dire. Ce que tu fais, c'est très bien. Mais le problème, c'est que même quand t'es là, tout ce que tu le fais bien. Mais là-dedans, ça ne boue plus. L'élan, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de feu. Le ressort est cassé et on est en pilote automatique. Et Jésus, Je ne veux pas que tu sois comme ça, parce qu'il faut que tu comprennes que si tu es en pilote automatique, tu es en sérieux danger. Parce que qu'est-ce qui te tient ? Tes œuvres ne t'en tiendront pas. Ton passé glorieux ne te tiendra pas dans la nuit des temps, dans la fin des temps de ce qui arrive. Ce qui va te tenir, ce ne sont pas les miracles passés, ce ne sont pas les ministères qui ont fait des miracles extraordinaires. Ce qui va te tenir, ce n'est pas même pas la saine doctrine. Et pourtant, la saine doctrine, on y tient. Et on verra l'exemple de Pergame qui était malheureusement, avait même toléré des choses intolérables dans son sein. Mais même ces choses-là, tout ça, c'est quoi la doctrine sans amour ? C'est la lettre qui tue. Paul le dit. Si mon épouse, nous sommes tout à fait capables de percevoir quel est notre degré d'amour l'un pour l'autre, à combien plus forte raison, Jésus ? Il lit dans mon cœur, il sait. Il me dit, tu vois, là je suis lésé. Non seulement je suis lésé, mais en plus, tu t'en rends même pas compte. Mais t'es en danger. Parce que ce qui va te tenir, c'est l'amour, l'attachement de cœur. L'attachement de cœur, ça exprime aussi la piété. Ce qui importe pour le Seigneur, avant ce que je fais, ce qui importe pour le Seigneur, c'est ce que je suis. C'est la façon dont je l'aime. Le Seigneur, lui, ce qu'il veut savoir, il le sait. Ce que le Seigneur veut savoir, c'est si je suis amoureux. Parce que Jésus est le plus amoureux de tous les amoureux. C'est le plus grand passionné, c'est un fou amoureux. Jésus est le plus grand amoureux, le plus grand passionné qui soit. Il veut savoir comment je l'aime, à quel point je l'aime. Quand les disciples, après leur échec, sont retournés à leur entreprise de pêche totalement découragés, Jean chapitre 20, et que le Seigneur vient les rechercher dans son amour, dans sa grâce. Il ne vient pas leur faire des reproches, il vient les chercher parce qu'il les aime, parce que rien n'est fini. Alors il vient les rechercher. Et quand le Seigneur s'adresse spécifiquement à Pierre, et vous savez toutes les promesses que Pierre avait fait à Jésus, et les autres aussi, de toute façon, c'est écrit. Le Seigneur tape pas du poing sur la table. Il ne lui fait pas la morale. Il ne lui fait pas de reproches. Il n'est pas là pour l'accabler. Il est là pour l'emmener plus loin. Il est là pour ramener la flamme en lui. Mais il va falloir que Pierre prenne conscience d'eux, puis qu'il le confesse. Alors le Seigneur regarde Pierre. Puis il ne lui dit pas, bon alors Pierre, du coup... c'est bon, t'es prêt à remarcher sur l'eau sans couler la prochaine fois, c'est bon. Parce que je serai plus là, moi, pour... je vais bientôt remonter. Et au fait, Pierre, t'as bien compris, du coup, le miracle des pains. Prochaine prédication, tu sauras expliquer. Le Seigneur regarde Pierre. Puis dit Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Ce regard tellement doux mais tellement perçant de Jésus, quand Jésus lui a dit « Pierre, je veux savoir une chose, est-ce que tu m'aimes ?» Agapé. Parce que moi, c'est comme ça que je t'aime. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que Philéo, pas agapéo, Philéo. Paul dit aux Corinthiens, même si demain tu vas livrer ton corps pour être brûlé, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Le premier commandement, tu aimeras. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. À la fin des temps, le Seigneur Jésus, Matthieu 24, Matthieu 25, fait ressortir que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce sera une bataille, un enjeu majeur. L'amour, c'est la nature de Dieu, c'est le fondement par excellence de ma vie, de ma relation, de mon salut, de ma continuité de vie avec lui, de mon avenir avec lui. C'est le moteur de ma relation avec Jésus. Parce que Dieu, en réalité, a toujours voulu quoi ? Notre cœur. Le message central de la Bible dans les Proverbes. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Parce que sans amour, vous savez ce que c'est un couple sans amour ? Ça s'appelle des colocataires. Et des colocataires peuvent avoir des bonnes relations et font des choses bien à l'intérieur du même domicile. Mais Jésus, il n'est pas venu chercher des partisans. Jésus n'est pas venu chercher des sympathisants. Jésus n'est pas venu chercher des colocs. Jésus est venu chercher une épouse. Il veut des gens qui l'aiment passionnément, comme lui, il nous aime, il veut que nous l'aimions en retour. Et s'il n'y a pas cet attachement du cœur, la piété s'affaiblit, l'amour s'affaiblit, et le véritable danger ensuite, c'est de décrocher. Et qu'est-ce qui va tenir mon cœur ? Parce que vous savez, ce message, c'est à celui qui vaincra. Et le Seigneur me dit, à moi, Stéphane, au même titre que n'importe qui ici, ce qui va te faire tenir, Stéphane, dans la fin des temps, ce n'est pas tes prédiques. Ce qui va te faire tenir dans la fin des temps, c'est de savoir à quel degré tu m'aimes. C'est ça qui te tiendra. C'est ton amour pour moi. Alors la solution, l'appel du Seigneur, cet appel solennel, certes, mais un appel d'amour. Le Seigneur lui dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ben oui, parce qu'il paraît que l'amour, ça donne des ailes. Et quand on n'en a plus, l'amour nous donne des ailes, on est d'accord ? L'amour nous fait vivre sur les hauteurs de la vie avec Dieu. Et là, visiblement, tout est parfait, tout est nickel, mais le Seigneur, je le dis différemment, est en train de montrer que tout est tellement terre à terre. Tout est, pardonnez-moi, au ras des pâquerettes, parfait, parfaitement fait, mais terre, au ras des pâquerettes. Et c'est comme si le Seigneur lui disait, tu te souviens quand tu étais amoureux ? Parce que quand tu es amoureux, il n'y a rien qui est trop lourd, il n'y a rien qui est trop pénible. Quand tu es amoureux, il n'y a rien qui te prend la tête. Quand tu es amoureux, tu n'as pas de problème de patience. Quand tu es amoureux, il n'y a rien qui te semble trop difficile. Quand tu es amoureux, il n'y a aucune montagne qui soit trop loin. Quand tu es amoureux, il n'y a absolument rien de trop pénible. Quand tu es amoureux, tu es bien dans ton cœur. Tu sens cette joie, cette paix. Puis ton âme, elle est légère, elle est libre. Tu as une qualité de vie, tu es léger à l'intérieur parce que
l'amour donne des ailes. Tout simplement.
Souviens-toi. Souviens-toi la vie que toi et moi on avait dans les premiers temps. Souviens-toi quand tu dévorais ma parole. Tu la lisais pas, tu la dévorais. Tu voulais tout savoir. T'arrêtais pas d'harceler ton pasteur de questions. Tu voulais tout savoir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi la vie que tu avais avec moi avant. Et puisque il y a cet appel, ben c'est que c'est encore un appel d'amour, c'est que c'est encore possible, parce que sinon le Seigneur aurait fermé la porte. Mais rien n'est terminé. Alors il lui dit, repens-toi, métanoïa, change, fais demi-tour, reviens à ce premier amour. Si tu n'y es jamais venu, ben viens-y, il est temps. Et si tu l'as laissé, ben reviens. Parce que sinon, et le Seigneur est clair, je viendrai, je prendrai ce chandelier en or qui désigne la valeur, la beauté, la pureté, la valeur de ce que tu es par moi, en moi, pour moi. Je prendrai ce chandelier qui est la lumière. Tu n'éclaires sans amour, tu n'éclaireras pas la nuit de la fin des temps. Je prendrai ce chandelier, je le déplacerai. Parce qu'en réalité, c'est une façon pour le Seigneur de dire, tu existeras toujours en tant qu'association cultuelle. C'est ça que ça veut dire. Mais tu ne seras pas mon épouse. Au sens où moi je le conçois. au sens où moi je l'attends. Alors qu'est-ce que je veux ? Je veux simplement que tu te souviennes et je veux simplement un changement en profondeur. Je veux un changement dans ton cœur et nulle part ailleurs. N'en fais pas plus, c'est pas ce que je te demande. Ne fais pas différemment, c'est pas ce que je te demande. Commence par considérer ton degré d'amour et puis reviens à ça. Et puis pratique tes premières œuvres, ça veut dire quoi ? Simplement celles que tu faisais, mais en réalité Éphèse n'a rien changé. Éphèse n'avait rien changé, elle faisait toujours pareil. Et tout était impeccable. Tes premières œuvres, c'est-à-dire celles que tu ne faisais pas dans la routine. Celles qui n'étaient pas motivées par la tradition. Celles qui n'étaient pas là en pilotage automatique, en automatique, mais simplement en mécanique. Mais celles qui étaient motivées par un amour ardent et un amour sincère. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends de toi. Voyez, bien-aimé, je vous livre ce qui est sur mon cœur. Vous savez quelle est ma pire crainte. Vous savez quelle est ma pire angoisse, moi, Stéphane Brion. Ma pire peur, un jour, c'est de devenir un pasteur de métier. C'est la chose la plus abjecte que je puisse envisager. Devenir un pasteur de métier. Vous voulez m'aider ? Vous voulez me bénir ? Vous voulez me rendre service ? Vous priez. Et vous dites, Seigneur, fais que Stéphane ne soit jamais un pasteur de métier. Brise-le, casse-le, mets-le sur un fauteuil roulant, envoie-le s'exploser contre un mur, fais ce que tu veux, mais permets qu'il ne soit jamais un pasteur de métier. Parce que si demain je n'ai pas l'amour, ça ne vaut plus rien. Tout ça, ça sonne creux, c'est fini, c'est terminé. Alors ce message bien-aimé, message solennel certes, mais un message plein d'amour, plein d'espoir, plein d'espérance, plein de possibilités, un message plein de perspectives d'amour. Le Seigneur dit, voilà dans la nuit qui s'épaissit dans la fin des temps, celui qui vaincra, que celui qui a des oreilles, que celle qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ce qu'il te dit à toi. Je veux que tu m'aimes. D'un amour ardent et sincère, d'un amour inconditionnel, je veux que tu m'aimes comme moi je t'aime. Et son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. On prie ensemble, s'il vous plaît, on se recueille. Dieu soit béni.